Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous sommes samedi 13 novembre 2021. Vous êtes bien sûr la radio Nzamba Gate Kakaoui. C'est l'heure du journal. Tout d'abord les titres. La vie n'a jamais été aussi dure pour les habitants de la population burundaise, avec une flambée des prix de pratiquement tous les denrées alimentaires. Notre correspondant à Bujumbura fera pour nous le tour de ces produits dans la capitale économique. Les parents d'élèves et les enseignants sont emportés par un véritable tsunami de contributions qui s'amplifie chaque jour qui passe à travers le pays. Pour Eulalie Nibizi, activiste de l'éducation pour tous, ils devraient porter plainte contre les directeurs des établissements qui leur exigent de payer cet argent. Et puis, la problématique de l'importation du carburant au Burundi, c'est ce que va nous développer le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Commençons tout d'abord par la flambée des prix des denrées alimentaires qui fait parler d'elle. À Bujumbura, capitale économique du Burundi, les consommateurs disent ne pas comprendre cette situation alors que cela se fait au vu et au su des administratifs à la base. Ils demandent au ministère du Commerce de prendre en main cette question pour l'intérêt de la population. Les détails avec Prosper Nzisabida.
Cette flambée des prix s'observe surtout pour les produits de première nécessité, comme de la farine de manioc, le riz, le sucre, la viande, le haricot et d'autres. Le prix d'un kilo de farine de manioc blanc est passé de 1300 francs à 1500 francs burundais et celle d'Inyange de 1000 francs à 1200 francs le kilo. Le prix d'un kilo du riz d'origine tanzanienne, qui était à 2600 francs le kilo, s'achète à 3000 francs et le riz normal est aux 2200 francs au lieu de 2000 francs. Le prix d'un kilo de viande et steak est passé à 12 000 francs contre 10 000 francs auparavant, et la viande avec des os est de 9 000 francs au lieu de 7 000 francs. Un demi-litre d'huile marque Oki qui était à 1 700 francs, aujourd'hui s'achète à 2 700 francs burundais. Un kilo de haricots dit Kinure qui s'achetait à 1 400 francs s'achète aujourd'hui à 1 600 francs, et celui dit Kirundo est passé à 1 300 francs au lieu de 1 000 francs. Un kilo du sucre s'achète entre 2600 et 2800 francs burundais si on a la chance de le trouver sur le marché. Certains consommateurs disent ne pas comprendre ce phénomène de flambée des prix et pointent du doigt les administratifs à la base qui ne suivent pas de près cette situation. Ils demandent au ministère du Commerce, Industrie et Tourisme de trouver une solution pour l'intérêt de la population. Ils demandent aussi au gouvernement de faciliter les commerçants à l'importation de ces produits. De l'autre côté, les commerçants font savoir que cette flambée des prix est liée au manque de devises et la pénurie du carburant.
Et puis, souvenez-vous, dans notre dernière édition, nous vous avons relaté deux hommes détenus depuis deux semaines dans les cachots de la police à Bururi pour avoir partagé sur WhatsApp des posts critiquant le pouvoir en place. Eh bien, pour les experts du droit, ils sont incarcérés en violation du code de procédure pénale. Maître Janvier Biguimana, par exemple, explique que les deux personnes devraient être libérées parce qu'ils n'ont commis aucune infraction. Pour lui, leur détention viole tous les principes de la liberté d'expression. On l'écoute.
Les éléments constitués d'une infraction, à savoir l'élément matériel, intentionnel, légal, ne sont pas tous réunis pour qu'on puisse les accuser d'avoir commis une quelconque infraction. Encore que le transfert d'un message WhatsApp via les réseaux sociaux ne saurait constituer une infraction punie par le code pénal burundais. Nous pensons que ce transfert n'est pas un comportement prohibé, d'où c'est pas un comportement qui est constitutif d'infraction, d'où les autorités burundaises qui ont emprisonné ces deux citoyens ont violé les droits fondamentaux garantis par les lois burundaises en la matière. La deuxième hypothèse est en rapport avec la liberté d'expression. Il s'agit d'une liberté qui est garantie par la Constitution et on ne peut pas être poursuivi pour avoir exprimé ce qu'on pense. En effet, on sait qu'il n'y a aucun gouvernement du monde qui puisse être à l'abri des critiques des citoyens, encore que le gouvernement du Burundi est un gouvernement qui a plusieurs ratés. Nous pensons que chaque citoyen a la possibilité et ne pourrait pas manquer de critiques à formuler à l'égard de ce gouvernement du Burundi, encore que, comme je le disais tantôt, il n'y a aucun gouvernement du monde qui puisse échapper à des critiques de ses propres citoyens, mais aussi de la communauté internationale. Et qu'en soit, il n'y a pas d'infraction qui a été commise. D'où l'emprisonnement de ces deux citoyens constitue une violation de leurs droits et nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir mettre un terme à cet emprisonnement qui est à la fois arbitraire et illégal et qui viole de façon fondamentale les droits garantis par les textes de loi burundais, à commencer par la Constitution, le Code pénal ainsi que le Code de procédure pénale burundais.
Nous venons de l'apprendre à l'instant, les deux hommes en question viennent d'être libérés. Il s'agit d'un enseignant du nom de Léonce Kamatari et un retraité de police, Longin Bigirimana.
Inzamba.
Obliger les enseignants à cotiser pour la construction d'un stade, les parents à contribuer pour l'intéressement des enseignants vacataires, pour les séances de renforcement ou encore pour la construction de nouveaux locaux est une escroquerie de la part des responsables des écoles. Et la ligne Ibizi réagit aux grognes de ces catégories de personnes contraintes de payer ces contributions à Gitega, Ngozi, en mairie de Bujumbura et ailleurs. Pour cet activiste du droit à l'éducation, ses parents et enseignants devraient porter plainte au lieu de se plaindre, parce que cet argent que ces directeurs leur exigent de payer n'est prévu nulle part. On écoute la ligne Ibizi.
Cet acte est un acte de corruption, c'est un acte de vol contre la population qui est déjà appauvrie. Les parents, les personnes ne doivent pas grogner, ils doivent plutôt écrire officiellement une plainte et accuser ces autorités qui demandent de l'argent. Parce que l'argent qui doit être utilisé dans une institution quelconque, spécialement dans les écoles, est prévu dans le budget de l'État qui est fixé par une loi. Alors, si la loi budgétaire est déjà votée, cela suppose que la direction scolaire doit respecter la loi budgétaire et utiliser les fonds alloués à son école. S'il voit une question d'urgence, normalement ce n'est pas une question de construction, ce n'est pas une question d'investir dans les infrastructures durables, ce sont les questions sociales. Les cotisations à l'école ne peuvent être sollicitées que pour une urgence sociale reconnue par les parents, les élèves et les professeurs et qui est gérée par un groupe mis en place volontairement par les concernés. Alors, dans le cadre d'une infrastructure, dans le cadre des événements quelconques, il est strictement interdit de faire percevoir à la population scolaire de l'argent. Ça, c'est un vol organisé. Ils doivent dénoncer et ils doivent persister.
Et la ligne Ibizi, qui estime par ailleurs que le ministère de l'Éducation et les responsables des écoles devraient s'acquitter de leurs obligations au lieu de continuer d'appauvrir les parents et les enseignants.
Les vacataires, quand ils entrent en fonction, ils signent un contrat avec le ministère via le directeur de l'école. Alors, il faut que la personne qui les a recrutés puisse chercher leur salaire à travers des fonds qui passent par l'État, c'est-à-dire les taxes de la population, les taxes des fonctionnaires sont payées pour payer les services à l'école. Le renforcement des élèves, ce n'est pas de l'affaire des parents. Normalement, l'école doit s'organiser, et même le ministère doit s'organiser pour que l'école fonctionne dans de bonnes conditions. Si l'école avait prévu des infrastructures suffisantes pour que les effectifs dans les classes soient minimisés, si l'école avait prévu des professeurs suffisants, des manuels suffisants pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions, je suis sûre que les séances de renforcement n'auraient pas de nécessité. Le renforcement, c'est le parent qui peut le faire à domicile. Quand le parent se rend compte que son enfant a certaines faiblesses, c'est lui qui doit s'arranger pour renforcer son élève, mais ce n'est pas le renforcement de tous les élèves. Tous les élèves n'ont pas besoin de renforcement à l'école. Ce n'est pas normal que l'on aille percevoir 10 000, 5 000 de la part des parents pour dire qu'il faut un renforcement. Que le ministère paye les professeurs, qu'ils mettent en place tout ce qu'il faut pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions et que les professeurs enseignent dans de bonnes conditions et les séances de renforcement n'auraient pas besoin d'être payées outre mesure.
Visiblement, le président Évariste Ndayishimiye n'est pas rentré les mains vides de Dubaï, et pour cause, les relations diplomatiques entre le Burundi et les Émirats Arabes Unis vont être renforcées. C'est ce que rapporte le porte-parole adjoint Alain Désiré Nzeyimana. Le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est entretenu au cours de sa visite avec des hommes d'affaires émiratis qui ont exprimé leur souhait d'investir dans différents domaines au Burundi. On écoute son porte-parole adjoint Alain Désiré Nzeyimana.
Son Excellence, le président de la République a éprouvé le souhait d'ouvrir une ambassade aux Émirats Arabes Unis et la réciprocité a été acceptée. Et puis, en deuxième lieu, il y a eu signature des accords, il y a eu comité mixte qui va être mis en place pour la préparation des projets, mais aussi pour voir comment on peut les mettre en exécution. Il y a eu aussi signature d'un accord commercial et technique. En ce qui concerne les investissements, il y a eu 5 investisseurs costauds qui ont accepté de présenter le projet à son Excellence le Président de la République dans les domaines, en tout cas, qui intéressent la nation burundaise, que ce soit l'agriculture élevée, que ce soit le commerce, le transport, les infrastructures, etc. Vous savez, par exemple, qu'il y a une autoroute qui va relier Bujumbura, Gitega, qui va être construite. Vous savez, par exemple, qu'il y a le chemin de fer qui va venir de la Tanzanie, passer par le Burundi, continuer vers la RDC. Tout ça, il y a des gens qui veulent être associés à ces projets-là. Et en ce qui concerne d'autres infrastructures, il y a par exemple une société qui se spécialise dans la construction des aéroports. Et vous savez aussi au Burundi qu'il y a un projet non seulement d'élargir cet aéroport de Bujumbura, mais aussi construire d'autres aéroports, par exemple à Bugendana, à Gitega. Son Excellence demande au ministère, aux autres organes de l'État qui sont concernés par ce qui a été discuté aux Émirats Arabes Unis de préparer des livrets qui montrent des projets bien étudiés parce que ces investisseurs veulent immédiatement venir au Burundi pour commencer.
Le président de la République a effectué une visite de 5 jours à Dubaï, d'où il est rentré ce vendredi.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour 3 raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Suite de ce journal, le problème d'importation du carburant consommé au Burundi, c'est le sujet du mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'est Émile Nibasomba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakao, Radio RPA, Idjouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
La pénurie du carburant est observée d'une manière périodique depuis de nombreuses années au Burundi. Aujourd'hui, le carburant est servi à compte-gouttes dans différentes localités du pays. Le marché noir, lui, le vend à un prix exorbitant. Certains analystes estiment que l'une des solutions est de laisser passer le carburant importé par la voie maritime. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 13 novembre 2021 vous est présenté par Emide Nivasumba. Le carburant de type essence se vend à un prix allant jusqu'à 6000 francs le litre sur le marché noir au Burundi. Ceux qui l'achètent au prix officiel de 2400 francs le litre passent des journées entières devant les stations-service. Certains d'entre eux rentrent parfois bredouille. Gabriel Rufiri, président de l'Olicom, réclame la disparition de la monopolisation de l'importation du carburant.
Il y a d'abord le monopole que nous décrions toujours de l'Interpétrole. L'Interpétrole, au moment de l'embargo, a acheté plusieurs camions. Comme c'est la société qui dicte la loi, tout ce que la société dit au gouvernement, c'est ce que le gouvernement exécute. Voilà pourquoi la voie maritime n'est pas privilégiée c'est les citoyens qui sont en train de payer ce coût. Il faut que le gouvernement fasse tout pour que les intérêts des citoyens puissent être privilégiés, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Avant, l'ORICOM faisait partie de la commission qui était chargée de donner des conseils pour avoir une structure qui met en avant les intérêts des citoyens. Ce qu'on a observé à ce moment, c'est que le prix devait diminuer si la voie maritime était privilégiée. Malheureusement, tout ce qu'on avait suggéré, le gouvernement n'a pas voulu prendre compte. Il privilégiait seulement les intérêts des opérateurs économiques sans vraiment se soucier des intérêts des citoyens lambda. Et on a décidé de quitter la commission parce qu'on voyait que le gouvernement voulait nous utiliser pour accréditer les thèses et on ne voudrait pas aller dans cette danse-là.
Interpetrol, c'est l'entreprise qui importe la plupart du carburant utilisé au Burundi. Parmi d'autres entreprises qui importent le carburant figurent Mogas, Yakem Oil Company, York en sigle, Burundi Petroleum Products, BUP en sigle et Delta. Selon Gabriel Ruffieri, si le carburant passait par le lac Tanganyika, il y aurait un léger mieux pour la population.
Il faut savoir que la structure du prix du carburant qui est négociée entre le ministère du Commerce, le ministère des Finances et le secteur privé essaye de détailler toutes les dépenses, toutes les charges qui se trouvent dans la structure. Le coût de transport est estimé par litre. On montre exactement le coût de transport quand on amène le carburant par voie routière, c'est-à-dire le corridor nord. Et en même temps, on montre le coût du carburant quand c'est la voie maritime, la voie du sud qui est utilisée. Si la voie routière, le corridor nord, sur un litre, il y a 50 francs par litre, c'est-à-dire que pour la voie maritime, pour la même quantité du carburant, c'est-à-dire un litre, c'est 20 francs seulement. Il y a vraiment une nette différence. Le prix du carburant à la pompe intègre tous ces éléments. Il est plus qu'urgent que le gouvernement utilise la voie maritime parce que c'est la seule voie qui va aider le Burundi à diminuer le prix de vente à la pompe d'un litre.
Le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Ruffieri, s'est entretenu avec nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société du 13 novembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Merci à vous, Émile Niwasumba, et à toute l'équipe qui a réalisé ce mini-magazine. Comme tous les samedis, terminons ce journal par la revue de presse hebdomadaire. Georges Nimenya vous la livre en main.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Inzamba Gatera Kawe à cette revue de presse que nous commençons par les droits de l'homme. Le journal SOS Média écrit sur l'enlèvement d'Alexis Mobona, deux de ses fils et une autre personne dont l'identité n'a pas été connue. L'espoir de retrouver ces personnes s'amenuise selon le journal. Alexis Mobona, ses deux fils et leur domestique ont été arrivés le 12 octobre dernier alors qu'ils étaient à leur domicile sur la colline Mohuzu, zone Minago, commune des provinces Lumonge, au sud du pays. La même nuit, les ravisseurs ont kidnappé une autre personne dont l'identité n'est pas encore connue. La famille d'Alexis Mobona n'a plus d'espoir de retrouver les siens. Cette famille indique avoir eu des informations comme quoi il serait détenu à Kabedzi, en province de Bujumbura, mais la famille n'a jamais eu la possibilité de les visiter. Un jeune Imbonerakure du CNDFDD, soupçonné d'avoir collaboré avec les ravisseurs, avait été interpellé par les services de renseignement. Mais il a été relâché après quelques jours de détention. Les proches de la famille d'Alexis Mobona disent qu'ils ont cherché les leurs partout dans les cachots, mais en vain. Page économie de cette revue. Pénurie du carburant, des explications peu convaincantes, titre journal Iwachu. Depuis des mois, ils ont remarqué une pénurie de carburant à Bujumbura. Le manque de devises, un parc automobile croissant, des devises destinées à l'importation du carburant utilisé à d'autres fins, telles sont les principales causes de cette pénurie. Les conséquences sont nombreuses, c'est le journal Iwacu. Les prix du transport ont augmenté, les prix de marchandises aussi. Se déplacer en ville devient un problème, surtout les heures de pointe. Pour la plupart des propriétaires de stations-service à mairie de Bujumbura, la quantité qu'ils recevaient avant a fortement diminué. Certains disent que quand il faut une commande de 20 000 litres, les fournisseurs leur donnent seulement 6 000 litres, soit environ un tiers de leur commande. Les fournisseurs leur disent qu'ils font partager la quantité disponible. Ils disent aussi que la livraison n'est plus rapide comme avant. Ils peuvent passer de 3 à 4 jours sans avoir la livraison. Un problème qui occasionne des problèmes d'approvisionnement, d'où les longues files d'attente devant les stations. Don Daishimiye, directeur de la gestion des produits pétroliers, reconnaît des irrégularités dans les importations du carburant. Il rassure que les devises sont disponibles, mais il déplore le comportement de quelques importateurs. La population des communes Mugamba et Matana, appelée à sauvegarder la paix et la sécurité, titre l'agence burundaise de presse. Lors de sa visite, le mercredi 11 novembre, dans les communes de Matana et Mugamba, la première vice-présidente du Sénat, Madame Denise Ndadaye, a rencontré les administratifs et représentants des partis politiques agréés et représentants des églises. L'objectif, c'était consolider la paix et la sécurité, la lutte contre les maladies liées à la malnutrition et le leadership. Concernant la sécurité, Denise Ndadaye a dit que les principales causes de l'insécurité sont les boissons prohibées, les grossesses chez les jeunes filles, les conflits fonciers, la polygamie, la pauvreté chez les jeunes et les femmes, la déforestation et la corruption dans les instances de justice. Elle a demandé à la population des deux communes de cultiver pour nourrir leurs familles. Parlons environnement pour terminer cette revue de presse. Le Burundi en proie aux effets climatiques, écrit Burundi Echo. La saison pluvieuse est synonyme de malheur. Depuis 2018, on a recensé 445 désastres qui ont affecté plus de 270 000 personnes au Burundi. Parmi elles, au moins 100 000 ont été forcées de se déplacer pour chercher un abri ailleurs. Des pluies torrentielles, des inondations, des glissements de terrain et de vents violents endommagent d'une manière répétitive les maisons, les écoles, les hôpitaux, les routes et d'autres infrastructures. Le Burundi est classé parmi 20 pays au monde les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous terminons cette revue de presse. Georges Nimenya à la présentation. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba, à la TKKOI pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un bon et agréable week-end. Au revoir.